Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben, j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h05 sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Vous êtes dans Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, le journaliste de Marianne Perico-Légas, l'économiste Pierre Rondeau et le médecin Robert Sebag. On est avec vous également au 32-16 pour parler de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui veut réquisitionner des éboueurs pour ramasser les poubelles à Paris. Pour ou contre, 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 13h45, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et encore une mauvaise nouvelle, voilà, avec Stéphane, comme d'habitude. Il nous parlera de la hausse des taux des crédits immobiliers. À 14h, ils sont moches, ils coûtent cher et parfois ils ne servent à rien. Je parle des ronds-points, bien sûr. Faut-il les supprimer? Il faut savoir que la France est championne du monde des ronds-points. Et puis à 14h30, RMC s'engage pour vous. On va parler retraite, tiens, encore, avec une auditrice à qui le fisc réclame de l'argent parce qu'elle a trop travaillé. Eh ben oui, ça arrive, on vous en parle à 14h30. Et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
13h06 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec la demande du jour et c'est celle de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui demande que la mairie de Paris réquisitionne des éboueurs pour ramasser les poubelles. 7000 tonnes de déchets s'amoncellent désormais dans les rues de la capitale suite à la grève des éboueurs qui avait démarré il y a 10 jours. Une décision qui a suscité la colère d'Alexis Corbière. Il est député LFI de Seine-Saint-Denis et il était ce matin sur RMC.
Monsieur Darmanin est un pyromane et un brutal, et j'invite tout le monde à être solidaire avec la grève des éboueurs, même si évidemment tout le monde ça dérange, mais ces gens sont des gens dignes, qui font un travail indispensable, qui disent une chose simple, c'est qu'au bout d'un moment, plutôt que de se préoccuper du petit tracas que procure la grève, essayons de comprendre qu'il y a des choses qui sont plus graves que ça.
Concrètement, Rémi Barré, s'il y a réquisition, ça va se passer comment?
Bah, d'abord, il faut attendre la position de la mairie de Paris, parce qu'en droit des collectivités territoriales, le maire est le seul à décider, puisqu'il détient la police de la salubrité sur la voie publique. Concrètement, il est de sa compétence de requérir une entreprise privée, par exemple, ou de réquisitionner des agents pour l'enlèvement des ordures. C'est ce que le préfet de police de Paris a demandé, sous demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé par courrier à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et si jamais Anne Hidalgo refuse de le faire, donc
ce
de
qui peut arriver,
réquisitionner des personnels, elle a une position, oui, pour l'instant, elle soutient les grévistes. Le préfet de police de Paris, à ce moment-là, peut se substituer à l'autorité du maire en invoquant notamment l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique, comme le stipule le Code général des collectivités locales. Dès lors, on l'a compris, hein, c'est le préfet de police qui prend la main sur la mairie. Le préfet donc procède aux réquisitions. Les personnels grévistes doivent reprendre le travail. Et attention, le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité, donc le refus de se soumettre à une réquisition, c'est un délit qui est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende.
Donc là, pour le coup, si j'ai bien compris, Rémi, on ne fait pas appel à des sociétés privées, on demande aux grévistes du public de reprendre le travail.
La réquisition, c'est ça, oui.
Très bien. Alors, pour ou contre ces réquisitions, je vais commencer avec vous, Robert Sebag. Je sais que vous êtes vent debout, vous êtes furax contre cette grève.
D'abord, la première chose, il n'y a rien contre les éboueurs. Moi, je n'oublie pas que pendant le confinement, si vous voulez, on était bien contents qu'ils passent.
Mais bien
tous
sûr.
Les jours, voilà.
Enfin, donc, on est bien, déjà, même sans le confinement, on est bien contents qu'ils passent tous les
la
jours.
La responsabilité de la situation aujourd'hui, elle n'est pas au niveau des éboueurs, elle est au niveau politique, que ce soit la mairie de Paris ou que ce soit le gouvernement. Donc déjà, on nous parle, quand on parle de réquisition, on dit oui, mais vous cassez le droit de grève et on prend des sociétés. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, vous en souvenez peut-être, c'était l'armée. On avait fait appel à l'armée, comme ça on va pas chercher des gens et on rentre pas dans ce cercle vicieux de la réquisition.
Bah, ce serait bien d'aller chercher l'armée, tiens, à la veille du vote contre la réforme.
Bien entendu que ça n'a pas été
symbole,
fait. Bon, peut-être que c'était un mauvais symbole,
bah, oui.
Mais ça existait. Moi, ce qui m'inquiète, en tant que médecin, si vous voulez, c'est le problème de santé publique lié à cet amoncellement.
Vous jouez pas à nous faire peur, là.
Non, je vais pas jouer à vous faire peur. Je vais vous parler très, très simplement. Aujourd'hui, sur la ville de Paris,
oui.
ce que je connais, et j'ai vérifié ces résultats, on est à peu près à 6 millions de rats. Donc c'est 3 fois la population interne de la ville. Vous savez, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas stigmatiser les rats, les surmulots,
ouais,
comme,
ouais,
comme ça aujourd'hui, qu'il faut trouver une cohabitation entre les hommes et les rats.
Non.
Mais de quoi on parle aujourd'hui? Les rats peuvent transmettre un certain nombre de maladies. Je vais être extrêmement calme. Déjà, on sait qu'ils portent la Covid-19, ils ont le virus.
Oui, bon, bah ça, okay.
Non, mais alors,
c'est pas très grave.
Il y a une maladie qui s'appelle la leptospirose,
oui,
qui est typique, si vous voulez, du rat. On l'appelle d'ailleurs la maladie des éboueurs.
Mais ils sont
aujourd'hui
vaccinés.
Alors, effectivement, il existe un vaccin pour les adultes,
d'accord,
uniquement les personnes qui ont un risque, effectivement, qui travaillent dans les égouts. Et quand j'ai entendu l'autre jour la responsable de la mairie de Paris chargée des affaires sanitaires,
oui,
qui a dit « c'est pas grave pour les enfants parce qu'il existe un vaccin, il n'est pas recommandé pour les enfants ». C'est scandaleux, la leptospirose est une maladie extrêmement grave. Et la contamination, elle se fait pas par les morsures de rats, elle se fait par l'urine du rat.
Personne ne va aller toucher l'urine des rats.
Mais on ne sait jamais si on par terre.
Mais vous ne touchez pas les poubelles s'il y a par terre.
Estelle, vous marchez sur l'urine du rat chez vous. Vous la ramenez chez vous.
Estelle, le deuxième point, et je ne vais pas parler de la peste. Non, je ne vais pas en parler.
La peste, c'est
le port
de Paris.
J'ai connu ça dans notre pays, j'espère qu'on n'en arrivera pas. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que les rats, normalement, ils vivent.
Les éboueurs qui nous écoutent.
Ils vivent
en sous-sol.
Si vous voulez, en sous-sol.
Oui.
Là, on les a fait sortir. Oui. Ils se régalent.
Ah, bah oui, c'est sûr.
Avec les poubelles. Et vous savez que la lutte contre les rats, aujourd'hui, on leur donne des aliments qui vont entraîner des troubles de la coagulation du rat.
Ils
les tuent. Ils veulent plus de ces aliments parce qu'ils préfèrent ce qu'il y a dans les poubelles.
Bah oui,
donc vous avez à la fois une augmentation, si vous voulez, de la consommation des rats, une augmentation de la reproduction. Ils sont très, très bien à l'extérieur. Ça, c'est un premier point. Et donc, dans les 3 semaines et 1 mois à venir, on va avoir une augmentation de la population.
8 millions de rats.
En fait, je vous rappelle, Robert, il n'est pas infectiologue, il est vétérinaire.
Non, quand les rats... Mais vous savez, le lien entre l'animal et l'homme, elle est extrêmement importante.
Oui, merci.
Si on veut connaître un certain nombre de maladies, il faut connaître, d'accord, aussi le risque animal. Les rats, ils entrent dans les immeubles, c'est des rongeurs. Ça pose des problèmes de construction et ils rongent les fils électriques. Ça peut produire effectivement aussi des courts-circuits.
Ouais,
écoutez, je ne veux pas.
Je suis au 6e étage, je suis préservé ou
pas ? C'est une réalité aujourd'hui. Alors, effectivement, il faut arrêter. Hein, et en plus, je ne parle pas des odeurs, je ne parle pas de l'image, l'image que ça peut donner.
D'accord.
Et d'autres germes.
Non. Bon, bah, vous êtes pour la réquisition, c'était la question.
Non, mais vous voulez que je vous parle des cafards ?
Non.
Parce que vous avez à la fois les cafards et les rats. Moi, je suis outré, si vous voulez, par l'absence de réflexion sur les problèmes de santé.
Oui, mais vous êtes pour la réquisition. Vous êtes pour la réquisition, Robert.
Je dis, il faut faire quelque chose. Si c'est l'armée, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et on a de la chance d'être en hiver.
Personne ne peut dire le contraire.
Pierre Rondeau.
Tout le monde ne peut qu'acquiescer les propos de Robert Sebag. Évidemment, que laisser les poubelles pourrir dans la rue, dans les rues de Paris, ça provoque rats, cafards,
froid, peste, tout ce que vous froid,
la peste bucolique, tout ce que vous voulez. Ça, nous sommes entièrement d'accord et personne ne pourrait dire le contraire. Qu'on soit totalement partisan ou opposé à la gauche comme à droite, n'importe qui accepte. Il suffit de se balader dans Paris pour voir à quel point c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, horrible. C'est horrible. Ça, nous sommes entièrement d'accord. Maintenant, de qui est la responsabilité? Qui porte la responsabilité? Les éboueurs, eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se battent contre une réforme qui va leur imposer à travailler 2 ans de plus alors qu'ils éprouvent déjà des conditions de travail déplorables. Mmh. D'ailleurs, tu l'as rappelé, Robert, pendant les confinements, eux au moins étaient là. Eux faisaient le travail. Eux faisaient le taf. Et donc, ce qu'ils demandent, moi j'entends parfaitement ce message.
Mais ils demandent à ce qu'on retire la réforme des retraites. Alors, tu te doutes bien qu'Emmanuel Macron, il va partir sa réforme.
J'en suis bien.
Parce qu'il y a une grève des éboueurs.
Mais après, ce débat-là est extrêmement compliqué. Parce que si on commence à réfléchir à un régime spécifique du métier des éboueurs, je rappelle que par exemple.
Pourquoi pas des caissières qui étaient aussi en première ligne.
On a maintenu des régimes spécifiques dans le projet de loi, notamment des sénateurs, mais aussi des danseurs de l'Opéra de Paris ou des avocats. Il y a encore des régimes spécifiques. Pourquoi
parce
ne pas
les
réfléchir.
Les avocats, ils ont leur propre caisse de retraite.
Non, mais je dis pas le contraire. Comme pour les danseurs de l'Opéra de Paris, c'est pas le contraire. Je dis simplement que dans la construction et dans la négociation de ce projet, il aurait fallu anticiper les métiers dangereux, les métiers à risque et les régimes spécifiques. Et là, en l'occurrence, c'est pas le projet de réforme dans son intégralité, c'est spécifiquement le cas des éboueurs.
Et c'est pas le problème. Pardon Pierre, ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est pas le problème des éboueurs, le problème c'est la responsabilité en termes de santé publique de prendre les décisions. Que ce soit l'armée, que ce soit une réquisition des privés.
Mais que la mairie de Paris
fasse.
Vous trouvez normal qu'on trouve aujourd'hui des éboueurs pour nettoyer les rues où va passer la manifestation, et on le fait pas dans notre quartier, dans 3-4 rues en dehors du parcours de la manifestation. Paris. Vous avez des, on a tout mis de, sur
c'est le travail de la mairie de Paris.
C'est alors, okay, donc c'est le pouvoir. Le problème, c'est pas moi, les éboueurs. Le problème, c'est la responsabilité de gens qui doivent prendre une responsabilité pour éviter une catastrophe sanitaire.
Alors, on a notre invité qui veut vous répondre. Robert, c'est Fabrice Angéi. Il est secrétaire confédéral de la CGT. Il est avec nous. Il s'apprête à aller manifester, justement, mais il nous accorde quelques minutes de son temps. Bonjour, Fabrice.
Bonjour.
Merci Bonjour, d'être avec nous. Et j'imagine que vous voulez réagir au propos de Robert Sebag, qui est pour cette réquisition, mais pour. En fait, il n'est pas tant pour la réquisition que pour le fait qu'il faut que les ordures soient ramassées, parce que ça pose un problème de santé publique.
Ça pose surtout des désagréments, parce que les problèmes de santé publique, la question des rats, moi, c'est pas d'aujourd'hui. Hein,
lorsqu'on oui, vous avez raison.
À Paris, la question aujourd'hui des personnes qui dorment dans la rue, etc., on en parle beaucoup moins. Voilà, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place et de dire d'où vient la responsabilité. C'est-à-dire que les propos de Darmanin sont irresponsables d'appeler.
Mais vous voulez qu'il fasse quoi ?
Ça va susciter la colère. Et moi, donc aujourd'hui, on a une majorité donc de citoyens qui disent que le combat doit continuer, même si la réforme a été votée. C'est ce qu'on fera d'ores et déjà. Et donc, la sagesse et la responsabilité, au lieu de susciter la colère que personne ne pourra maîtriser, c'est de retirer cette réforme qui n'est ni souhaitée ni souhaitable. C'est là la vraie responsabilité.
Oui, mais peut-être, mais Fabrice. Oui, mais.
Le conteste, hein. Personne ne conteste.
Oui, mais j'entends ce que vous dites, Fabrice Angéi. Oui, mais d'accord, mais alors, quand c'est par exemple, la SNCF, par exemple, qui fait grève, il n'y a pas de problème de. Même si ça peut être un vrai désagrément pour les usagers. Il n'y a pas d'incidence sanitaire. Là, vous vous rendez bien compte, Fabrice, dans certains quartiers de Paris aujourd'hui, mais c'est hallucinant. Et vous dites, vous ne pouvez déjà plus passer sur les trottoirs, donc c'est un vrai problème, vous êtes obligé de passer sur la route. Si vous avez une poussette, par exemple, c'est compliqué. Vous avez des bébés, je veux dire, qui sont le nez dans les poubelles, quoi. Donc ça pose problème quand même.
Qu'il y ait un problème, personne, encore une fois, personne ne le conteste. Mais on ne peut pas résoudre cette question éminemment politique, c'est-à-dire sur la réforme des retraites, donc très sociale dans le sens donc politique, c'est une question de choix de société, par la réponse d'une réquisition. Mais je veux dire, une réquisition ne fera, et je pense qu'il y a un auditeur qui l'a dit, ne fera qu'empirer les choses. Ça sera vécu comme une atteinte au droit de grève, alors qu'aujourd'hui, le gouvernement, s'il écoute, non pas la démocratie institutionnelle, qui se fait à coup de marchandage entre groupes parlementaires, mais ce qu'expriment les citoyennes dans leur ensemble, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, mais y compris quel que soit ce qu'ils ont voté, c'est de retirer cette réforme et les choses en deux jours elles rentrent dans l'ordre.
D'accord, mais Fabrice Angéi, vous imaginez,
non mais il n'y a rien qui est pris en compte dans la pénibilité.
Ok, mais
vous imaginez qu'ils vont travailler deux ans de plus.
Mais je suis pas sûr.
C'est les premiers qui les subissent, hein.
Oui,
c'est
pas les. Mais vous partez plus tôt.
L'espérance de vie à bonne santé à la retraite.
Non mais certes, non mais on est d'accord, et que Kébour soit un métier pénible, tout le monde est d'accord avec ça. Il y a aucun problème. Mais vous imaginez bien que
apparemment et ceux qui le soutiennent.
Non mais d'accord, vous imaginez bien que si le gouvernement au bout de 10 jours de grève des éboueurs, enfin bah c'est fini pour ce gouvernement, et puis c'est fini.
Un éboueur pourra partir en fonction de la carrière.
Qui sont dans la surdité. On a proposé une porte de sortie. La lettre donc au président de la République de l'intersyndicale, c'était une porte de sortie. Le gouvernement le refuse et joue au pourrissement avec des risques de dérapage bien plus que ce que l'on voit aujourd'hui.
Merci en tout cas Fabrice Angéi d'avoir été avec nous, puis bonne manif, hein, parce que vous manifestez cet après-midi contre la réforme des retraites, ce qui est cohérent évidemment. Rémi Barré,
je l'évoquais ça à l'instant, aujourd'hui un éboueur peut prendre en fonction de sa carrière, si à quel âge il a débuté, peut prendre sa retraite pendant à 57 ans.
Oui, donc ce qui est
si la réforme passe, ça sera 59.
Voilà, mais ce qui est quand même plutôt que la majorité des Français, puisque la majorité des Français, la moyenne, c'est 63.
Parce qu'on entend régulièrement dans la bouche d'un certain nombre de représentants syndicaux que les critères de pénibilité, etc., vont disparaître, etc. Ce n'est pas vrai.
Dans le cadre des
Perico Légas, est-ce qu'il y a quand même un problème de timing là de la part de Gérald Darmanin? Il aurait peut-être pu attendre une journée, quoi.
Alors déjà, moi, j'apprends que la grève dure depuis 15 jours. Je pensais qu'elle durait depuis 3 ans. Tellement la ville est dégueulasse. En fait, c'est que 15 jours. Donc voilà, c'est Paris poubelle. Hein.
Ça se voit.
C'est plus la ville lumière, c'est la ville poubelle. Non, mais là, c'est différent. On prend quand même, notre ami syndicaliste, je respecte sa revendication, on prend quand même la santé publique un peu en otage.
Mais complètement.
C'est comme si on se baladait avec une seringue en disant, voyez, attention, je vais vous piquer. On peut pas, là, il y a un seuil. Je veux bien, le ministre de l'Intérieur, il est dans son rôle, Il n'est pas toujours. Là, il est dans son rôle de ministre de l'Intérieur. Ordre public, santé publique, salubrité publique. J'ai connu comme
oui, toi. Oui, les Éboueurs sont aussi dans leur rôle.
Mais j'ai connu les camions de l'armée. Alors, je crois qu'il n'y a plus de camions. Voilà, il n'y a plus de camions. Et puis voilà. Mais j'ai connu les camions de l'armée. Ça s'est passé à Marseille. À un moment donné,
l'armée n'a pas autre chose à faire en ce moment qu'à ramasser les poubelles.
Eh ben, enfin, non, pardon, mais c'est pas ça.
Je ne crois pas que ce soit le rôle de l'armée.
Estelle, elle ne peut rien faire d'autre. Non, Estelle.
Ça éviterait de réquisitionner des grévistes.
L'armée ne peut rien faire d'autre. L'armée française, elle n'existe plus. Elle n'a pas de moyens. Par contre, elle peut ramasser les poubelles.
C'est arrivé par deux fois à Marseille en 1999 et 2010.
Voilà, donc c'était pour répondre à Estelle. L'armée française aujourd'hui, elle est juste bonne à ramasser les poubelles. Elle n'est pas prête à se battre. Et j'espère qu'on aura... C'est les statistiques qui...
Ça ne t'a pas échappé qu'il y avait une grève, une guerre pas loin de chez nous.
Nous avons appris grâce à cette guerre que si nous étions confrontés à cette situation, l'armée française tiendrait 3 semaines. Mmh. Voilà, le général de Villiers est formel et toute sa théorie a été confirmée. L'armée française aujourd'hui,
l'armée britannique aussi, l'armée allemande aussi. L'armée n'est bonne qu'à ça, écoutez, c'est super.
On s'est reposé sur l'OTAN. Alors, sur les poubelles, l'État, le gouvernement a pour mission maintenant de nettoyer la ville. Pour des raisons de santé publique, le docteur Sebag a totalement raison.
Oui,
c'est lui qui défend les intérêts de la République et tout autre discours est un discours irresponsable, anti-citoyen et anti-républicain. Voilà, honte à ceux qui le prononcent.
Non, mais c'est pour ça que Rémi l'a très bien rappelé. On peut aussi passer au-dessus des décisions syndicales et la mairie de Paris ou la préfecture de police peut soit.
Elle soutient la grève.
Non, mais oui,
elle soutient la grève.
Le préfet de police, pour des questions de salubrité publique, peut passer au-dessus de la mairie de Paris.
Ça devrait déjà être fait.
Eh bien, ça pourrait passer, mais effectivement, entre casser la grève et provoquer une colère sociale ou pour des questions de salubrité publique, demander à des boîtes privées ou à l'armée de s'occuper un temps des poubelles pour éviter qu'il y ait des rats, comme tu l'as rappelé, Robert. Voilà, on aurait à la fois la grève maintenue et le combat social maintenu et défendu et la propreté parisienne.
On n'a pas envie de mourir de l'Hidalgo Spirose.
Bon. Christophe, tiens, est éboueur de la ville de Paris, justement, depuis 18 ans. Bonjour, Christophe.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour, Christophe. Christophe, est-ce que vous êtes en grève actuellement?
Non.
Ah, très bien.
Bah oui.
Donc, vous ramassez les poubelles?
Non, parce qu'il n'y a pas de camion.
Il n'y a pas de camion.
Ah oui, évidemment, oui.
En fait, ce n'est pas tellement les éboueurs qui sont en grève, c'est les chauffeurs. En fait, les garages sont bloqués. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les garages sont bloqués, les incinérateurs sont bloqués, tout est fermé. Nous, on ne fait pas grève. Après, on a certains de nos collègues qui font grève aussi, et que je respecte d'ailleurs et qu'ils ont droit. Mais moi, je ne fais pas grève. Pourquoi? Parce qu'en 18 ans, j'ai perdu presque 1000 euros de grève pour qu'à la fin, on n'a rien eu. D'accord. On devait avoir des primes essence. Je gagne 2,80 € par mois pour ma voiture, pour prime essence.
C'est
tout ce que j'ai à la mairie de Paris, je précise quand même.
Ensuite,
on nous dit on part à 57 ans à la retraite. Alors, 57 ans, je
pars
en commençant à 18 ans.
C'est ce qu'on dit, Christophe.
Je gagne 300 euros en partant à la retraite à 57 ans. À 59 ans, 500 euros. On monte. 62 ans, 1002. C'est déjà bien. Pour moi, 62 ans, c'est bien. 64 ans, 1004, à peu près 1005. Donc, ça va. Donc, je pourrais partir. Pour moi, c'est bien. Mais personne partirait à 59 ans.
Oui.
Quand je vois dans vos journaux, à la télévision, etc., qui dit, ouais, les boueurs, il a de la chance, il peut partir à 59 ans, c'est pas vrai.
Non, mais personne dit que vous avez de la chance, Christophe. On sait que vous faites un métier difficile. Mais alors, moi, je voudrais savoir, vous qui n'êtes pas gréviste, en fait, vous arrivez au boulot et puis vous faites rien, quoi.
Bah, si, vous savez, nous, les boueurs, on travaille, on fait pas que la benne. On lave les rues, on lave les trottoirs, etc. Vous savez, on ramasse.
Bah, là, en ce moment, ça doit être quelque chose. Faire. Là, vous lavez le trottoir entre les poubelles, quoi.
Bah, on évite les poubelles, effectivement, il y a des endroits où maintenant on peut plus trop passer. Mais sinon, non, le quartier en ensemble reste quand même propre. Je suis dans le 8e arrondissement.
Ah ben, j'y suis passé hier. Quand même propre. Ça dépend des rues. Enfin, moi, j'ai dû passer au milieu de la rue parce qu'effectivement, il y avait des poubelles de partout, quoi. Donc,
partout, ça va. Mais il faut venir tous les jours. Il y a des
endroits. Non, je vais pas dans le 8e tous les jours. Merci.
J'ai commencé dans le 19e. Les poubelles que je vois là, c'était comme ça tous les jours. Quand alors votre collègue il parlait des rats, etc. Vous voulez faire la peur des rats. Moi, j'ai lavé mon poulailler, je suis tombé sur un rat. Donc des rats, vous en avez partout. Il n'y a pas que spécialement à Paris. Moi, j'ai un collègue à moi qui s'est griffé. J'ai un collègue à moi, le rat, il lui est monté dessus. Des rats, vous en avez tous les jours, jours.
Non mais
donc,
ok, Christophe.
Pas que maintenant.
D'accord, mais là franchement,
mais là, ils sortent. Hein.
Voilà, et il suffit de regarder les images.
Ça fait 4 jours que je travaille d'affilée, j'en ai pas vu un seul dans la rue. Je commence à 6h le matin, je passe à côté des poubelles.
Bah non, ils dorment parce qu'ils sont repus. Donc
c'est le grand remplacement.
Moi, je peux témoigner. Ce matin, je suis passé par CTU. Ils ont mis deux bennes remplies littéralement de poubelles. Je suis passé par le parc de CTU, sous le chemin de 5 minutes, j'ai vu passer 3-4 heures. Donc,
Des Gaspard.
Vous allez à l'école ?
Moi, j'étais même dans le 15e.
Moi, je leur parle maintenant. Je dis bonjour, je donne à manger aux rats, ils viennent, comme ça,
La cohabitation, la mairie de Paris.
Après, c'est pas que les rats, c'est répugnant. Et en plus, il y a quand même aussi un autre truc qu'on n'a pas dit, c'est que ça a des retentissements, par exemple, sur les restaurateurs. Là, on m'a envoyé une photo de monceaux de poubelles devant une terrasse, c'était à côté de la rue Daguerre, à Paris, dans le 14e. Voilà. C'est sûr que le restaurateur, il n'y a personne en terrasse.
Rue Daguerre, c'est une rue de commerçants.
Près de la gare de Saint-Lazare, c'est incroyable. Les touristes qui arrivent, qui voient ça.
Vous imaginez l'image. Hier, c'était les 500
jours. Ils ont changé l'annonce, ça sera la rue du Faubourg Saint-Honorat maintenant, pour le 55 rue du Faubourg Saint-Honorat.
Christophe, est-ce que vous. Christophe, est-ce que vous êtes contre la réquisition demandée par Gérald Darmanin? Alors, même si vous n'êtes pas gréviste.
Comme je disais à Hortène, à votre collègue, non. Ça, par contre, s'il appelle à réquisitionner, honnêtement, là, je rentrerai dans le mouvement.
Ouais, voilà,
parce que ça veut dire, dans ce cas-là, on n'a plus le droit de faire grève. C'est fini. Et puis, démocratie, il n'y a plus rien. Et je ne fais pas grève aussi. Pourquoi? C'est à préciser aussi. C'est non pas par rapport financièrement. C'est vrai que c'est difficile. Mais c'est surtout aussi que les syndicats, il y a un an, ils ont appelé à voter Macron. Et Macron, monsieur Macron, pardon, il a dit que dans sa campagne, je ferai la retraite, je ferai la retraite, je ferai la retraite. Donc, il ne nous a pas pris dépourvu. Pour une fois, un président tient sa promesse.
D'accord.
Donc, déjà, non. Voilà. Pour ça, déjà, j'ai pas aimé les syndicats, ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé à voter à Macron plein de fois. Ils savaient ce qui allait se passer.
Ah oui.
On a eu d'autres candidats, pas spécialement Mme Le Pen, on a eu d'autres candidats qui proposaient la retraite à 60 ans, etc. Fallait voter pour eux. Mais au moins, on dit pas ce qu'on doit voter, c'est personnel, et voilà. Donc,
mais en revanche, vous rentrez dans le mouvement s'il y a réquisition. Merci beaucoup, Christophe. On va terminer avec Hélène, qui nous appelle de Bordeaux et qui est infirmière en EHPAD. Bonjour, Hélène.
Bonjour à tout le monde.
Alors Hélène, vous avez entendu ce qu'a dit le docteur Sebag. Effectivement, il en va de la santé publique, finalement, de réquisitionner. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui?
Eh bien oui, je suis tout à fait d'accord. Alors moi, le gentil monsieur syndicaliste dont j'ai oublié le nom, de la CGT, qui me dit que oui, on casse le mouvement de grève et tout ça. Alors effectivement, mais après, il en va quand même de la santé publique. Mais c'est bizarre, personne ne s'insurge, parce que dans le milieu du soin, quand les soignants font grève, que ce soit à l'hôpital ou quoi que ce soit, on est assigné, voire même réquisitionné.
Bien sûr.
Et là, parce qu'on doit assurer le minimum. Le minimum pour la santé d'autrui, parce que voilà. Et là, pour les éboueurs à Paris, à un moment, c'est exactement la même chose. C'est une continuité pour la santé publique, pour c'est la ça. Salubrité. Voilà. Alors moi, j'entends bien. Alors ils veulent faire grève, je respecte leur mouvement et leurs opinions, d'accord, mais à un moment, il en va de la santé publique, de la salubrité publique. Alors moi, j'ai de la chance, j'habite pas Paris, donc je vois pas.
Vous avez été Bordeaux, ça va. Ça. Vous allez voir que ça va arriver aussi, Hélène. Hein.
Oui, oui, ah bah certainement.
C'est étonnant que ce soit pas arrivé d'ailleurs.
Certainement.
Je l'étonne.
Mais bon, je pense que, en plus, justement. génial. Donc voilà, mais c'est ça en fait, c'est que entre l'odeur, le risque, l'odeur, le désagrément, effectivement, tout comme vous disiez, l'envahissement sur la voie publique pour les restaurateurs, pour les piétons, pour tout le monde. Enfin bref, ça devient ingérable. Alors une grève, d'accord. Manifester son mécontentement, son opposition, je l'entends, mais pas au détriment non plus. Et surtout de la santé publique. C'est surtout ça. Comment c'est ça, en fait? Parce que la leptospirose, c'est très dangereux. Mon mari en a fait une il y a plusieurs années. Je peux vous dire que pendant trois semaines, c'était pas la joie à la maison. Et on a eu très peur. Donc, voilà.
Merci.
La maire de Paris, ça la dérange pas de savoir qu'il y a des... Comment de ses administrés, les enfants de ses administrés.
Mais qui risquent effectivement de tomber malade.
C'est très bien. On voit l'intérêt qu'elle porte à ses électeurs et futurs électeurs. Et c'est très sympathique en fait.
Merci beaucoup Hélène, en tout cas, d'avoir été avec nous. Juste, c'est combien de cas par an la leptospirose, Robert?
60 000 morts au niveau de la planète. Oui. C'est 600 cas très sévères en France. On compte à peu près une centaine de morts par an liées à cette maladie.
Ah, quand même?
Oui.
Ah, d'accord. Bon, Robert nous a bien fait flipper là. Il y a un énorme blanc sur le plateau.
Il vaut mieux prévenir que guérir. Hein.
Mais tout à fait. Bon, Rémi, des messages pour terminer et puis le résultat de notre sondage.
Alors, message par exemple de Bob qui nous dit: ça sert à quoi ces débats avec la CGT qui ne veut qu'une chose, le retrait de la réforme des retraites? Surtout, ne touchons pas à leurs privilèges. Je n'en peux plus tous ces gens qu'on entend. Ils ont déjà des avantages et ils veulent toujours plus. La grande majorité des salariés qui ont un régime normal. Je respecte les éboueurs, mais il faut entendre aussi la majorité silencieuse. Bon, voilà, ça c'est ce que nous dit Bob. Et puis on a donc, on vous a posé cette question: la grève des éboueurs, faut-il réquisitionner? C'est contre à 56% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
C'est assez serré. Ouais. Ouais. J'attendais un résultat plus large. Dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC. On se demandera si la justice est trop laxiste. On vous parlera d'une affaire dans le nord de la France. Alcoolisme, est-ce qu'on en fait assez aujourd'hui dans notre pays? Et puis, est-ce que vous êtes prêts à utiliser de l'eau recyclée? A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi jusqu'à 15h avec Rémi Barre et Pierre Collégas, Pierre Rondeau et Robert Sebag. Et tout de suite, c'est le moment du meilleur d'RMC. Le zapping, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. La justice est-elle trop laxiste? Le maire de Kievrechain dans le Nord a démissionné pour dénoncer le dysfonctionnement de la justice, justement. En effet, un mineur avait été interpellé dans sa commune par la police pour conduite sur une moto non immatriculée, sans casque et refus d'obtempérer. Mais ce jeune est reparti libre et avec sa moto, puisque la procureure a estimé que les faits reprochés ne relevaient pas du rodéo urbain, une décision que comprend à moitié le chef d'entreprise Mehdi Guézard.
Quand un gamin mineur roule sur une moto de compétition, parce que c'est une moto de compétition qui a été prise, hein, d'accord, sur une moto de compétition sans casque en plein centre-ville, c'est un trouble à l'ordre public. Donc, il est évident que c'est un mineur, que je ne vais pas l'envoyer à Guantanamo, c'est pas, le sujet n'est pas là. Moi, ce qui me fait mal au cœur, je vais vous le dire, c'est que comme tout délinquant, quand tu veux punir un délinquant, c'est pas en le mettant en garde à vue ou en prison, c'est pas ça qui va changer les choses. Ça, c'est une certitude pour moi, c'est pas une solution. Mais, au moins, en lui confisquant, c'est bien matériel. Donc, je suis pas choqué que le gamin sorte, c'est normal. Il a 17 ans, il est mineur, ses parents sont venus le chercher, ok. Mais, que tu lui remettes la bécane le lendemain,
ça, oui, c'est pas possible.
C'est pas possible, c'est une honte. Ça, je suis vraiment scandalisé.
Oui. Non mais c'est vrai que quand c'est raconté par Mehdi Guézard, Pierre Collégas, oui, effectivement, ça semble scandaleux, quoi.
Il y a une partie de la magistrature aujourd'hui qui juge en vertu de l'idéologie. Voilà. C'est comme ça.
Quelle idéologie, on peut savoir?
Une idéologie eh bien, celui qui commet un délit est le victime d'une société qui l'a poussé à commettre ce délit.
Voilà. Alors c'est un tout petit peu plus complexe que la caricature.
Oui, c'est pour ça que je suis prudent et mesuré.
C'est pour ça que
je pourrais être plus tranché de ce que je veux dire.
À la question qui est écrite, la justice est-elle trop laxiste ?
On avait compris. Hein.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, alors bien évidemment, en racontant l'anecdote, c'est affligeant. On lui rend pas le véhicule, c'est une évidence. Il est délinquant. Il n'a pas respecté la loi. Le véhicule est réquisitionné et récupéré. Et on n'a pas à lui rendre derrière. Donc évidemment que ce cas-là est caricatural au possible et est critiquable. Mmh. Donc, mais de là dire que la justice avec un grand L. Est
non, j'ai parlé de magistrats. On parle de certains magistrats que tu connais bien.
Et dans l'occurrence, certains magistrats. Souvent, il peut y en avoir. Je dis pas le contraire. En l'occurrence, pour ce cas très précis, effectivement, la procureure a fait preuve d'un trop grand laxisme, teinté ou non, on n'en sait rien, et tu n'en sais rien d'idéologie, en tout cas, elle l'a libéré, c'est une certitude.
Elle lui a rendu sa moto sur
elle a dit qu'il n'y avait pas rodéo.
On est d'accord, de là à dire que la justice
il avait pas faire de la
est
prison,
touchée, en tout cas une partie des procureurs et des magistrats sont touchés par une part d'idéologie sous-jacente qui indiquerait que
ils ne sont pas cons, responsables
de leurs actes, mais sont le fruit de la société, ça c'est beaucoup
trop. Et le mur des cons, c'est un leurre.
Mais c'est un mur, c'est un syndicat, c'est pas la justice en
mais personne n'a dit la justice.
C'est trois personnes qui ont été effectivement coupables d'avoir affiché le mur des cons. Trois juges sur l'ensemble des magistrats qui dans leur intégralité souffrent énormément d'un manque de moyens.
Il y a un certain nombre de présomptions qui permettent de penser qu'il y a dans la magistrature.
Mais c'est pas le débat.
Mais il y en a. Ça, je dis pas
le débat, c'est pas la justice, c'est
le gauchiste.
Pas tous en même temps.
Perico, il y a des gens à gauche, il y a des gens à droite. Ok, là en l'occurrence, c'est un cas.
Mais t'as aussi des magistrats fachos.
Robert Sebag.
Si vous voulez revenir sur le débat précisément,
oui,
moi, je me pose la question sur le rôle des parents. Parce que ce gamin à 17 ans, qui lui a acheté la moto? Avec quel argent
il a alors ça, c'est un autre débat, Robert. Il y a des gamins de 17 ans qui gagnent de l'argent.
Quand on convoque les parents, la justice leur dit, écoutez, là, on va lui supprimer. Soit on lui met une amende, parce qu'il y a quand même une amende. C'est pas du rodéo, mais il était sans casque. Est-ce qu'il était, la moto était assurée ou pas assurée? Il y a une amende. Tant que vous ne payez pas l'amende, on vous garde, si vous voulez, le véhicule, on vous le rendra quand vous aurez payé l'amende. Mais je pense que la responsabilité des parents, elle est quand même importante pour un gamin de 17 ans.
Mais 17 ans,
si on lui rend sa moto, il va se sentir complètement, je veux dire, innocent de tout, et il peut y avoir un véritable accident avec peut-être
pas. Il me semble que la majorité pénale, c'est 15 ans, donc à 17 ans.
Mais là, le problème, en fait, c'est que tu lui rends la moto.
C'est surtout ça, c'est surtout ça. Tu lui rends la moto. Il a peut-être, alors, à vérifier s'il y a eu ou pas une amende, mais ça me fera vraiment, je serais assez choqué qu'il n'y en ait pas.
Ça lui appartient seulement. Est-ce que c'est pas ses parents?
Si lui a été rendu,
elle n'est pas immatriculée, donc.
C'est encore pire.
Est-ce que les parents l'ont aidé à payer ou autre chose?
Apolline Matin, ce matin sur RMC. En fait-on assez en France contre l'alcoolisme? Aujourd'hui non reconnue comme une maladie, cette addiction touche de très nombreuses personnes, adolescents comme adultes. Témoignage ce matin sur RMC d'Olivia Leray, auteur du livre « De l'eau dans ton vin ». Olivia Leray, dont le père alcoolique a bien du mal à s'en sortir malgré cette cure de désintoxication.
Ça a commencé avec du vin, beaucoup, d'où le titre « De l'eau dans ton vin ». C'était plutôt du rosé, pour être très précise. Du pastis aussi, de temps en temps, au PMU du coin avec ses copains. Et dans une autre phase maintenant, il boit de la bière. Et lui, pour lui, c'est pas de l'alcool. Il dit « j'ai arrêté l'alcool, mais je bois de la bière ». C'est pour vous montrer à quel point c'est ancré et que c'est très grave. Le problème, c'est qu'une fois que tu as fait ta cure de désintoxication, tu sors, t'es mieux, ça s'est amélioré, je pense que tu repars du bon pied. Le problème, c'est qu'après, t'es relâché dans la nature. Et là, encore une fois, t'es face à toi-même. Et donc, du coup, tu reprends les habitudes que tu avais avant. Nous, on a essayé, par exemple, un service de soins de suite, ça s'appelle comme ça. Mais c'est un milieu hospitalier. Donc, du coup, tu te réinsères pas dans la société. Tu retrouves pas de la dignité. On te réapprend pas à te faire à manger tout seul. On te réapprend pas à t'aimer. On te réapprend pas à t'habiller. Et donc, du coup, t'es incapable de te remettre dans une société.
Et donc, fragile. Et donc, on retombe.
Exactement. C'est exactement ça.
Témoignage très fort ce matin d'Olivia Leray chez Apolline de Malherbe. Qu'est-ce qu'on fait, Robert Sebag? Elle le dit très bien, Olivia, c'est que une fois que tu rentres chez toi, si t'es alcoolique, c'est quand même compliqué de t'en sortir tout seul.
Les soins de suite, c'est une hospitalisation, si vous voulez.
C'est ça.
Il faudrait avoir quasiment un coach, si vous voulez, presque en permanence, parce que la rechute, c'est tout le problème de l'addiction en général. On en a beaucoup parlé avec l'affaire Palmade, si vous voulez. Vous avez l'alcoolisme, vous avez les drogues, et vous avez aussi la dépendance qui est très, très, très difficile à sevrer de tout ce qui concerne les barbituriques, les hypnotiques, les anxiolytiques. Et ça, en France, c'est un vrai, vrai sujet. Et je vous assure que tous les spécialistes d'addictologie vous disent que c'est beaucoup plus difficile de sevrer quelqu'un qui est sous anxiolytique et hypnotique que de toxicomanie, en particulier de cocaïne. Alors là-dessus, c'est pas le problème d'être reconnu comme maladie ou pas comme maladie, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait sur le long terme.
Ben oui.
Parce que l'addiction, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Alors vous avez les groupes d'alcooliques anonymes, on arrive à s'en sortir, mais on fait quoi après? C'est pas l'hospitalisation n'est pas une réponse, si vous voulez.
Il faudrait avoir
un suivi régulier, un suivi psychologique, un suivi parfois psychiatrique, parce que parfois l'addiction, c'est une véritable maladie. L'addiction est une maladie et l'alcoolisme est une partie de ces addictions.
Mais l'alcoolisme est peut-être plus dur à détecter parce que justement c'est légal. Enfin, l'alcoolisme, c'est pas que c'est légal, oui, mais l'alcool est légal.
Oui,
donc
mais les gens sont conscients au bout d'un moment.
L'alcool est légal. Il y a aussi, encore une fois, peut-être qu'on pourra me dire le contraire ou l'inverse, mais j'ai le sentiment, moi, à mon échelle, qu'il y a une banalisation de la consommation d'alcool. Et au même contraire.
On consomme de moins en moins, d'ailleurs.
C'est vrai, mais on est toujours dans l'idée que l'alcool, c'est avant tout festif.
C'est ça.
L'alcool, c'est avant tout pour se faire plaisir. L'alcool, c'est le lien social. Oui. C'est effectivement, on va toujours être étonné en soirée de voir quelqu'un qui ne boit pas. Mm-hmm. Toujours, tout le monde est là à festoyer et quelqu'un au milieu qui dit non, je bois pas. Bon, t'es malade, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est bizarre. C'est toujours étonnant de voir quelqu'un qui ne boit pas. Il y a un élément, par exemple, qui m'a toujours surpris dans les bars, alors qui est lié en conséquence à l'alcoolisme futur. C'est pourquoi l'happy hour, c'est que l'alcool qui est moins cher. Dans les bars, à l'happy hour, c'est que l'alcool qui est moins cher. Jus d'orange, un jus de pomme, à l'happy hour, non. C'est un prix unique. C'est que la pinte de bière, c'est que le verre de vin en happy hour.
C'est vrai que c'est assez étonnant. Vous trouvez qu'on en fait assez, vous, Péricolégas, contre l'alcoolisme?
On n'en a jamais autant fait, c'est peut-être pas suffisant. Ouais. Mais voilà, la France est un combat parce qu'il y a eu des ravages sociaux. L'alcoolisme, et moi qui suis défenseur du vin, le vin a été une source d'alcoolisme massif dans les années au début du siècle, et on sait le pinard, voilà, et ça a fait des ravages. La chose, grâce à la prise de conscience, a beaucoup évolué. On consomme des boissons alcoolisées malgré qu'il y ait de l'alcool. Moi, je bois du vin. Je regrette qu'il y ait de l'alcool. Je constate qu'il y a de l'alcool, mais je ne bois pas parce qu'il y a de l'alcool, ni pour l'effet que ça fait sur moi. C'est un ensemble culturel et gustatif sensoriel. Voilà. Et s'il pouvait ne pas y en avoir, j'en serais ravi. Et pour autant, je pense que la communication du gouvernement des pouvoirs publics, je pense pas qu'on peut en faire plus. on résoudra jamais à 100% le problème. Et pourtant, le problème des addictions, qui est une autre échelle, peut-être que l'addiction, elle peut se soigner peut-être par une initiation ou je sais pas. On est dans le psychologique là.
Mais vous savez, le problème de l'alcoolisme, si vous permettez, Estelle, c'est un problème qui est mondial. Il ne faut pas le regarder uniquement à travers la France, c'est un problème culturel. Vous avez dans les pays du Sud et en Afrique, s'il n'y a pas de vin, s'il n'y a pas d'alcool, ça va être autre chose. D'accord. Donc ça veut dire que les gens sont toujours à la recherche, si vous voulez, de paradis artificiels, entre guillemets, de désinhibition, parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce qu'il y a une situation politique, économique, sociale. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. C'est vraiment universel. Malheureusement, c'est universel.
J'ai entendu des scientifiques.
J'ai regardé ça.
Dans le sens de ce que tu dis, j'ai entendu des scientifiques expliquer si on coupait la vodka aux Russes, ça serait une tragédie sociale.
Mais le cas en Éthiopie, partout. En fait, les alcools de riz.
Non, mais là, pour la température, ils tiennent les calories de l'alcool. Ça permet de tenir.
On va terminer avec Apolline Matin. On va parler chirurgie esthétique. Tiens, une grosse tendance chez les hommes. La mâchoire d'un homme est-elle un attribut viril? Pour certains hommes, il semblerait que oui, puisque Charles Magnin nous a révélé ce matin que les hommes étaient de plus en plus nombreux à se faire refaire la mâchoire. Écoutez.
Objectif, une mâchoire bien carré.
À l'américaine, un peu.
À l'américaine, si vous voulez, Apolline. En tout cas, c'est l'édition britannique du magazine GQ qui a enquêté sur ce phénomène. Ces hommes qui passent sous le bistouri pour subir un avancement maxillo-mandibulaire et une génioplastie, opération qui peut coûter jusqu'à 20 000 euros et qui consiste donc à casser la mâchoire du patient et son menton avant de recoller les morceaux en avançant la ligne maxillaire pour avoir la mâchoire la plus carrée possible. Et le magazine a interrogé un chirurgien de Barcelone qui se décrit comme un charpentier de la mâchoire. Son nombre de patients a doublé en 5 ans. Des avocats, des ingénieurs, des médecins, des employés de la tech. Et c'est un cliché très occidental, cette mâchoire carrée qui rendrait viril, parce qu'à l'inverse, en Chine et en Corée, des hommes consultent pour se faire radoucir la mâchoire. Tout est une question de point de vue.
J'adore ces mâchoires et les photos utilisées par Charles. Pierre Rondeau, tiens.
Moi, non, j'ai pas la
petite chirurgie de la mâchoire.
Non, pas.
Parce que vous êtes barbu, donc on la voit pas. Donc
voilà, déjà de fait, donc ça non. Mais moi, je demande directement à la jonte féminine. C'est vraiment un attribut parce que là, c'est des hommes.
Ouais, j'ai compris
la décision, mais est-ce que les femmes aiment les mâchoires carrées?
Bah moi, oui, mais ça, je suis la seule femme sur ce plateau, donc
vous êtes la représentante de la jonte féminine.
Ah ben moi, je dis oui, mais bien sûr, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a, Perico?
C'est pas. Être grande gueule, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose.
Là, c'est grande mâchoire.
Ah ben oui, c'est ça, c'est la grande gueule.
Écoutez, rappelez-vous les gueules cassées après la première
mâchoire.
Non, mais ce que je veux dire,
j'ai failli le dire.
Je suis pas contre la chirurgie esthétique, mais c'est pas anodin. C'est pas anodin de casser les maxillaires,
de les ressouder,
le menton.
Oui,
autant
pas
je peux
anodin,
accepter sur le nez, les oreilles, certaines choses. Oui. Là, c'est pas anodin. Ça veut dire que vous prenez aussi.
Si vous refaire la gueule, c'est pas anodin non plus.
On te refait la gueule.
Ça s'appelle la chirurgie esthétique. Robert, c'est comme ça.
Il y a des ratages. Je vais pas citer de nom, mais il y a des ratages.
Il y a aussi des réussites.
Et là, on peut pas faire marche arrière.
Allez, dans un instant, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi. Et encore une mauvaise nouvelle de la part de Stéphane, puisqu'on va parler de la hausse des taux de crédit immobilier. Si vous voulez acheter une maison, il va falloir se dépêcher. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h49, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. C'est le moment de parler conso avec Stéphane Pedrazzi.
RMC, Estelle Midi.
La minute conso.
Alors Stéphane, je suis désolée de vous annoncer comme ça chaque jour, mais vous venez encore nous apporter une mauvaise nouvelle.
C'est vrai.
Les bonnes nouvelles sont rares, hein, vous me direz. Mais enfin là, c'est une très mauvaise nouvelle parce que c'est une conséquence inattendue de la réforme des retraites. C'est la hausse du coût des crédits immobiliers.
Oui, et c'est une conséquence qu'on n'avait pas forcément anticipée, c'est vrai. Comme le départ à la retraite généralement entraîne une baisse des revenus de l'ordre de 25 à 50%, ça c'est ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, en règle générale, on s'arrange pour avoir terminé le remboursement de son crédit immobilier avant de partir à la retraite. Ça c'est la pratique, il n'y a pas d'obligation. Ça veut dire qu'à 62 ans, a priori, on a tout liquidé. Mais avec le report de l'âge légal à 64 ans, au plus tôt, puisque certains devront sans doute travailler jusqu'à 66 ou 67 ans s'ils ont commencé à travailler tard, eh bien le remboursement des crédits immobiliers mécaniquement va glisser de quelques années.
D'accord.
Ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième, c'est que ces années supplémentaires entre 62 et 67 ans, ce sont des années où les personnes seront salariées et pas retraitées. Et ça change vraiment tout pour les assureurs, parce que quand on est retraité, ben, on risque pas grand-chose, on a sa retraite à la fin du mois. Mais si on est salarié et qu'on a un problème de santé, statistiquement, quand on est plus vieux, on a plus de risques d'avoir un problème de santé, eh bien on peut se retrouver en arrêt de travail, en ITT, incapacité de travail. Et là, pour les assureurs, ça change tout parce qu'ils vont devoir indemniser.
Ah, évidemment, on n'avait pas pensé à ça, bien sûr.
Personne n'y avait vraiment pensé, en fait. Hein.
Mais concrètement, ça va faire grimper le prix de l'assurance emprunteur, donc du crédit immobilier.
Voilà, entre 2 et 5% de hausse pour l'assurance emprunteur, ça c'est le calcul de Magnolia.fr, pour un report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Alors, ils ont fait une petite estimation, à minima, si vous payez 30 euros d'assurance par mois, c'est vraiment à minima, parce que généralement, on paye beaucoup plus.
Hein. Bah oui.
Ça représente une augmentation d'environ 450 euros sur la durée d'un crédit à 25 ans. Alors, vous allez me dire,
450 euros sur
450
25 ans,
euros sur 25 ans, c'est assez limité, mais si vous avez un crédit immobilier plus important, si effectivement vous avez déjà des problèmes de santé et si vous continuez de travailler jusqu'à 66 ou 67 ans, là je peux vous garantir que la facture sera beaucoup plus salée. Et bien sûr, ça arrive dans un contexte, on le sait tous, où les taux de crédit remontent rapidement. Pour un crédit à 20 ans, j'ai regardé ce matin, le taux moyen aujourd'hui, il est à 2,95% chez Empruntis. À ce rythme-là, on risque évidemment de frôler les 4% d'ici la fin de l'année.
Sans assurance.
Et si en parallèle, exactement Robert, l'assurance augmente, la douloureuse va devenir insupportable.
Bien, surtout pour les personnes d'un certain âge, évidemment.
Conséquence de la réforme des retraites.
Mais alors, est-ce que ce serait pas, Stéphane, le moment de faire jouer la concurrence sur l'assurance emprunteur? On sait qu'on peut aller voir finalement plusieurs banques ou plusieurs assurances.
Depuis l'an dernier, c'est la loi Lemoine, on en avait parlé, la réforme de l'assurance emprunteur. Maintenant, on peut changer à n'importe quel moment et pas uniquement à la date anniversaire du contrat. Alors cette loi, elle est entrée en vigueur au 1er septembre sur tous les types de crédits. Et globalement, ce que nous disent les associations, c'est qu'elle a eu un effet positif. C'est ce que dit l'association pour la promotion de la concurrence en assurance emprunteur, l'APCAD. Elle nous dit par exemple que chez AXA, les tarifs moyens ont baissé de 10 à 15%. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Objectivement, pour répondre à ta question, ça ne va pas résoudre le problème du décalage de l'âge de départ à la retraite, parce que le risque, il est effectivement important. On est plus souvent en arrêt maladie lorsqu'on est plus âgé.
Oui,
et là, les assureurs, quels qu'ils soient, vont de toute façon augmenter les tarifs. Donc, on peut faire jouer la concurrence, mais le problème, il est chez tout le monde pareil. Vous avez un crédit immobilier ?
Oui.
Vous avez essayé de changer d'assurance emprunteur ?
Ben non, pas encore.
Parce que généralement, on prend l'assurance de sa banque, hein, plus de 80%, je crois que c'est même 85%. Alors, on a déjà les premiers retours de cette réforme qui est entrée en vigueur en septembre. Sur les trois premiers mois, le site Magnolia.fr a enregistré une hausse de 300% des demandes pour changer d'assurance, surtout chez les plus de 45 ans, parce que ce sont eux qui payent le plus cher. Et au final, le taux de changement d'assurance emprunteur, il est passé de 1%, qui était vraiment pas grand-chose, à 3%, ça reste limité. Mais enfin, c'est quand même x3 depuis l'entrée en vigueur de la réforme. Et on croise les doigts pour que ça continue.
Et ça permet d'économiser vraiment beaucoup ?
Alors là, beaucoup plus que les 450 euros dont je te parlais. C'est aussi un calcul de Magnolia.fr. Si on change d'assurance crédit, dans certains cas, on peut économiser largement plus de 10 000 euros. 10 000 euros, c'est la moyenne sur la durée d'un crédit. Et dans certaines simulations, on arrive jusqu'à 17 000 euros. Donc c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Ouais. En revanche, et il y a quand même un gros bémol, et je tiens quand même à insister là-dessus, tout le monde n'a pas bénéficié de la réforme. Vous vous rappelez que dans cette réforme, il y avait aussi la suppression du questionnaire médical pour les personnes qui empruntent moins de 200 000 euros et qui ont fini de rembourser avant les 60 ans. Et comme ces personnes-là, bien les assureurs maintenant n'ont plus de visibilité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris une énorme masse et ils ont tapé dessus. Entre 20 et 25% de hausse chez Actelior, 17% d'augmentation pour l'assurance de ces personnes-là chez April et de 10 à 15% chez Allianz. C'est ce qu'on appelle du name and shame.
Et dis donc, Stéphane, hier, Stéphane, vous êtes venu, vous nous avez dit, oh là là, alors vraiment, les banques, il faut pas retirer l'argent, il n'y a aucun problème.
Ah non, il faut jamais, sinon faillite le système s'écroule.
D'une banque américaine, vous êtes un peu notre nouveau Bruno Le Maire. Hein, c'est-à-dire que vous nous avez annoncé ça et là, il y a la chute de toutes les banques. On est sur moins 20% sur le Crédit Suisse, moins 12% sur BNP. Non mais bravo Stéphane.
Oui, Crédit Suisse, effectivement, qui a de gros problèmes et ça entraîne toutes les banques européennes. Ce que disait Bruno Le Maire en début de semaine, c'est qu'il n'y avait pas de risque de contagion par rapport à la SVB, la Silicon Valley Bank.
On aurait dû s'en douter. Hein.
En revanche, les problèmes de Crédit Suisse, je vais être très transparent avec vous, si Crédit Suisse s'effondre, il va y avoir une onde de choc en Europe qu'on va sentir passer. Oui.
On
va en parler demain, d'une manière ou d'une autre.
Et vous nous direz donc, contrairement à hier, qu'il faut retirer l'argent de la banque, c'est ça que vous allez nous dire ?
Il ne faut jamais retirer l'argent, sinon le système s'écroule.
S'il est déjà en train de s'écrouler, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas perdre notre argent.
Eh bien, on attend que l'État renfloue. Bruno Le Maire va arriver.
Mais on n'a plus d'argent, l'État n'a plus d'argent, vous le savez bien.
Mais on en imprimera.
Oh bon, écoutez, super, on fera marcher les planches à billets. Merci beaucoup,
comme
Stéphane. Pedrazzi, tous les. Oui, je ne sais pas si c'était bon vieux fort. Tous les jours, dans Estelle Midi, et puis en podcast, bien sûr, sur l'appli RMC, sur rmc.fr et sur vos applis. De podcast. Dans un instant, on se posera cette question dans Estelle Midi. Faut-il supprimer les ronds-points en France? Il y en a 40 000. On est les champions du monde des ronds-points. Ça coûte hyper cher. En plus, c'est moche. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.